7h25 minutes. Hier, François Legault a été assez clair quand il a dit que l'objectif du gouvernement, c'est de nous amener, nous les Québécois, à Noël avec un contexte qui va permettre un certain nombre de regroupements avec des mesures, évidemment. On joue beaucoup avec l'hypothèse du 10 personnes maximum, 3 adresses différentes. Et pour ce faire, ben, il faut continuer à tenter d'aplanir cette courbe. Hier, on était en bas de 1000 cas. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et déjà, il a indiqué son intention de garder les restaurants fermés après le 23 novembre. Puis de l'autre côté, il y a toute la question des écoles. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Est-ce qu'on prolonge le congé? Est-ce qu'on devance le congé? M. Legault a dit hier, ce seront des vacances. Il n'est pas question qu'il y ait de l'enseignement en ligne. Beaucoup d'enjeux. Et il y a aussi la question des vaccins. Ce matin, la compagnie Pfizer a indiqué que son vaccin, premier vaccin qui a été présenté, serait maintenant efficace à 95 % peu d'effets secondaires. Et donc, au début, on parlait de 90, c'est un peu plus. Je fais le tour de la question avec notre invité régulier, le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, le fait que Pfizer nous dit ce matin on a un vaccin efficace à 95 %, on est à la phase 3, il y aurait peu d'effets secondaires sérieux, qu'est-ce que ça vous dit?
Ben, ça me juste confirme un peu les résultats préliminaires que nous avons eus la semaine dernière. Ça dit pas grand-chose de plus parce qu'il faut pas oublier que les chiffres sont encore très petits. Il faut pas non plus qu'on rentre dans la compétition des compagnies en disant « moi, je suis à 94, l'autre à 95 ». Vous savez, quand on est dans cette zone-là habituellement, c'est que les vaccins se valent. En médecine, très souvent, 94, c'est pas vraiment mieux que 90. Lorsqu'on regarde, si vous voulez, ce qu'on appelle les intervalles de confiance, c'est-à-dire, c'est un peu comme un sondage. Hein. Vous savez, quand on fait une étude, on vous dit que l'efficacité est à 94 %, mais c'est quelque part en 91 et 97, on va dire. Alors, ça dépend un peu du nombre de patients qu'on suit, etc. Mais le message, c'est que ce sont des vaccins qui ont démontré leur efficacité. Très important à souligner, parce que c'est la première fois qu'on fait un vaccin contre un coronavirus. Il n'y en avait pas avant ça. Deuxièmement, c'est des vaccins qui sont efficaces, protecteurs, pas juste en termes d'anticorps. C'est-à-dire, on n'a pas juste pris des gens, leur donné le vaccin, puis on mesure s'ils ont des anticorps. On a regardé si les gens sont tombés malades ou pas tombés malades. Donc, on sait que les gens sont protégés contre la maladie et dans une proportion qui semble être à 90 % et plus. Donc, ce sont les bonnes nouvelles. Évidemment, il y a encore plein de questions. La sécurité à long terme, la protection à long terme, et ça, on ne peut pas l'avoir avec des résultats qui sont préliminaires. Et on attend aussi la publication de ces études-là dans des revues scientifiques où les études vont pouvoir être critiquées et analysées, faire ressortir leurs forces, mais faire aussi ressortir leurs faiblesses et leurs limites.
Est-ce que ça tient la route, l'argument voulant que le vaccin qui ne bloque pas la maladie ferait en sorte quand même que les effets secondaires seraient moins importants?
Oui et non. Il va falloir voir, je vous dirais, les effets secondaires à court terme et long terme. À court terme, c'est facile parce que quand on fait une étude clinique, on demande aux gens « qu'est-ce que vous avez? Avez-vous mal à la tête? Est-ce que ça fait mal? Faites-vous de la fièvre? » etc. Et on surveille les gens sur une période de quelques mois pour voir si quelque chose de plus sérieux n'arriverait pas. Un peu ce qu'on a vu avec d'autres vaccins qui ont été dont les essais ont été suspendus. Mais ça, il faut le voir à long terme. On ne peut pas tirer de conclusion à cette étape-ci sur l'aspect de la sécurité à long terme du vaccin. Il n'y a pas de raison de penser que ce n'est pas sécuritaire, mais on ne peut pas avoir la réponse tant qu'on n'a pas la réalité dans la vraie vie de centaines de milliers, voire de millions de personnes vaccinées.
Hier, au point de presse, le Dr Arruda a dit qu'un des éléments du vaccin, c'était que des gens qui développaient quand même la maladie avaient peut-être des effets moins graves. Autrement dit, que ça protège contre la maladie, mais dans le cas où le virus quand même se faufile, ben, on a des effets moins graves par la suite.
C'est très, très préliminaire comme données. Il faut faire attention okay. avec ce genre de données parce qu'on n'a pas encore une définition très, très claire de ce qu'étaient les maladies sévères. Ce serait encourageant si ça arrivait. On a vu que dans le groupe placebo, que ce soit dans l'étude de Pfizer ou celle de Moderna, les gens avaient, entre guillemets, non seulement plus de maladies, mais les cas sévères sont souvent survenus ou quasiment dans le groupe placebo, donc dans les gens qui ont reçu finalement de l'eau, si vous voulez. Alors, c'est encourageant, mais il va falloir le voir dans la vie réelle. Très souvent, la réponse va venir une fois que vous allez introduire le vaccin dans une communauté. Hein. Supposons qu'on vaccine demain, on est dans 6 mois, 1 an, on vaccine 4 millions de Québécois Et à ce moment-là, on voit que l'impact sur les hospitalisations a diminué de façon importante. On peut se dire, ben tiens, au mois de novembre 2021, comparé au mois de novembre 2020, on a 80% de moins d'hospitalisation de la COVID et il y a 90% de moins de gens aux soins intensifs. Là, vous allez savoir que le vaccin a fonctionné sur une base populationnelle pour diminuer l'impact sur la maladie sévère.
OK. Dr Weiss, on est au mois de novembre. Entre le moment où le vaccin est autorisé, le vaccin est distribué, qu'on est capable de l'administrer donc aux citoyens, les fameuses deux doses, et que ce vaccin soit assez répandu pour qu'il y ait une forme d'immunité, on parle d'une période de combien de temps, selon vous?
Écoutez, moi, je pense qu'il faut être réaliste et il faut mettre ça dans une période d'à peu près un an. Ça dépend quel vaccin on va choisir. L'histoire de l'approbation, ce sera, entre guillemets, pas un problème, parce que l'urgence sanitaire est tellement grande que les autorités sanitaires vont accélérer les études de demande des compagnies pour approuver les vaccins. Donc, habituellement, vous savez, des fois, ça peut prendre des mois, voire parfois des années. Probablement que ça va prendre quelques jours. Sans vouloir, bien sûr, couper les coins ronds, il va falloir que les organismes d'accréditation et d'agrément fassent leur travail comme ils le font habituellement. Ce qui sera peut-être encourageant, c'est que comme ça va être fait par plusieurs organismes en même temps, donc par exemple la FDA aux États-Unis, l'EMA qui est l'Agence européenne du médicament, Santé Canada, donc il va y avoir de multiples évaluations qui vont montrer qu'à un moment donné, s'il y en a un qui trouve que quelque chose n'est pas correct, il va le faire ressortir. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a le vaccin, ben là, il y a l'aspect de la production, ce qui semble être relativement facile pour les compagnies, mais il y a la compétition pour obtenir le vaccin. Quel pays va avoir les doses en premier, combien de doses, etc. Puis après ça, il y a l'aspect de la logistique. On sait que c'est des vaccins qui nécessitent des congélateurs, soit à moins 20, soit à moins 70. C'est un problème, mais c'est pas un problème pour un pays comme le Canada. C'est quelque chose qu'on est capable d'avoir et de distribuer. Ce sera un problème dans des pays qui n'ont pas des capacités logistiques très, très grandes. Donc, il y aura cet aspect-là, mais il va falloir après aller toucher les populations, donc pouvoir aller vacciner les gens. Toute la logistique de la vaccination, est-ce qu'on va le faire en plein hiver? Est-ce que les gens vont faire des files d'attente? Est-ce que les gens vont devoir prendre un rendez-vous parce que vous ne voulez pas avoir 50 000 personnes en ligne, disons, devant le stade olympique pour être vaccinés en plein mois de février ou au début du mois de mars? Donc, il va y avoir des problèmes logistiques qui vont faire que probablement, on peut se donner, on va dire, une année. Il faut dire que le chiffre magique de 70%, c'est le chiffre magique théorique d'atteindre une immunité de groupe. Parce que imaginez-vous qu'un vaccin est efficace à 90%, on va dire, et que ça prend 70% de la population pour être immunisée de façon à ce que le virus ne peut plus se transmettre de façon facile dans notre environnement. Donc, ça prend quand même un nombre relativement élevé de Québécois à immuniser rapidement. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se donner, disons, jusqu'à l'automne 2021.
Parfait. Les écoles, maintenant. Bon, la décision n'est pas prise. On comprend que, durant le temps des fêtes, il y aura multiplication des contacts, il y aura des rencontres de famille. Et là, je vois passer toutes sortes de théories, puis je veux vous entendre là-dessus, de gens qui disent... Ça ne donne absolument rien de fermer les écoles parce que de toute façon, les contacts auront lieu à l'extérieur des écoles. C'est plus important que les enfants soient à l'école. Il y en a qui prétendent qu'il faut y aller avant la période de Noël pour justement qu'il y ait une quarantaine avant que les rencontres commencent. Puis d'autres qui disent non, il faut garder ça pour la fin parce que les rencontres auront eu lieu et quand ils vont venir à l'école, il y aura cette quarantaine de passé. Pourriez-vous me démêler ça?
Bon, première chose, le gouvernement a choisi, on en avait parlé à plusieurs reprises depuis longtemps, de faire la bataille de Noël, donc d'offrir aux Québécois un beau cadeau de Noël en se disant on va permettre un certain relâchement des mesures à Noël pour que les gens puissent passer le temps des fêtes ensemble. Et je pense que c'est une stratégie qui est une bonne stratégie d'un point de vue même psychologique pour enlever de la vapeur au niveau de la population. Maintenant, il faut savoir qu'en faisant ça, en quelque sorte, c'est on veut un gâteau, mais quel prix est-on prêt à payer? Donc, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact d'un certain relâchement durant la période des fêtes. Alors, l'idée, c'est, quand on dit de fermer les écoles un peu avant, c'est d'essayer, si vous voulez, de limiter la propagation du virus à l'intérieur des écoles. Et on dit qu'il y a à peu près, je pense, un tiers des écoles au Québec où il y aurait au moins un cas. Donc, ce que vous voulez, c'est que vous voulez pas que, rendu le 24 ou le 25 décembre, des enfants qui auraient été à l'école jusqu'au 21 ou au 22 puissent se retrouver avec leurs grands-parents être, eux, pas trop malades parce qu'ils sont jeunes en bonne santé, mais être dans une phase infectieuse où ils pourraient le donner à leurs grands-parents. Donc, l'idéal, c'est d'essayer de minimiser les impacts avant, si vous voulez. Donc, si vous dites, par exemple, une semaine avant le 23, on ferme les écoles, on limite un petit peu le risque d'attraper la COVID à l'intérieur des écoles. Puis après, c'est de dire, ben, on va garder les enfants un peu plus tard parce que on veut que après le 31 puis le 1er janvier, ceux qui auraient eu des réunions familiales, ben que les enfants à ce moment-là, s'ils ont été infectés, ne reviennent pas trop tôt à l'école pour ne pas continuer à entretenir ce brasier, si vous voulez, de la COVID qu'est les écoles. Et on en a discuté également dans le passé, l'importance des écoles, et on le voit encore puisque là, le grand débat, même pour le gouvernement, c'est l'école. Est-ce qu'on sort les enfants avant? Est-ce qu'on les sort après? Est-ce qu'on les sort des deux côtés? Et combien de temps on va les sortir? Donc, c'est une stratégie qui est probablement la meilleure stratégie. La façon, je vous dirais, de limiter le nombre de cas, ça n'a jamais été étudié, mais théoriquement, si on veut limiter le nombre de cas, on veut laisser un peu d'air aux Québécois pour la période des fêtes, on veut minimiser le risque de transmission dans les familles durant la période des fêtes, c'est de minimiser l'impact de la transmission dans les écoles, surtout les écoles secondaires qui sont le plus affectées, un petit peu avant, et empêcher, si vous voulez, un retour trop rapide à l'école pour pas que le virus reprenne du poil de la bête début janvier et se continue de se propager rapidement. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il va falloir faire. Et probablement que si on allait une ou deux semaines après, le 1er janvier, mais on sait que le virus, par exemple, la transmission, la médiane, c'est autour de 5 jours. On peut aller jusqu'à 14 jours, mais la réalité, c'est qu'à 11 jours, quasiment tout le monde va devoir être infecté. Donc, si vous allez autour jusqu'au 12 janvier à peu près, vous allez vous donner une espèce de tampon de sécurité pour prévenir une résurgence importante au mois de janvier. Il ne faut pas oublier qu'au mois de janvier, on a d'autres défis qui s'en viennent. Le mois de janvier est toujours un mois difficile pour les hôpitaux, les urgences, les virus respiratoires, le débordement dans les urgences, etc. Mais cette année, il y a aussi, on a notre premier ministre fédéral qui a dit aux Canadiens de ne pas être des snowbirds cette année. Donc, ouais, on va avoir beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui vont rester au Québec cette année, qui ne vont pas aller en Floride, et qui sont des personnes âgées, souvent peut-être même en bonne santé, mais quand même, qui risquent de glisser sur la glace. On ne leur souhaite pas, mais ça peut arriver, donc d'avoir besoin de se fracturer quelque chose, d'avoir besoin de services, qui risquent de pelleter, ça risque de donner des douleurs dans la poitrine, et donc ça enclenche des visites à l'urgence. Donc il y a toute cette espèce-là qui va s'ajouter, si vous voulez, au fardeau habituel. C'est pour ça donc qu'il faut mitiger cet aspect du mois de janvier, parce que le mois de janvier, c'est le risque de la troisième vague.
Vous avez devancé ma question parce que, avec toutes les règles qu'on peut mettre en place, après ça, il faut s'en remettre aux individus. C'est-à-dire que des adolescents à qui on dit, ben, vous n'allez pas à l'école, mais qui font des rassemblements quand même, ou des gens qui vont se masser dans les centres commerciaux sans masque, sans respecter les règles, on ne peut pas mettre des policiers à tous les coins de rue, là.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est un travail collectif, c'est un travail de responsabilisation collective. C'est aussi important de définir qu'est-ce que va être le 10 personnes, est-ce que le 12 personnes, peu importe, est-ce que ça va être des bulles, parce que est-ce que si je me réunis avec 10 personnes le 24 et avec 10 personnes différentes le 25, je suis toujours avec 10 personnes, mais si chacun se réunit avec 10 personnes tous les jours qui ne sont pas les mêmes que ceux de la veille, ça va faire beaucoup de 10 personnes à un moment donné. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il va falloir regarder. Et puis oui, c'est important que le gouvernement peut espérer avoir une collaboration de la population, mais la population doit également collaborer. Vous savez, c'est l'histoire de « on est aussi fort que le plus faible maillon de la chaîne ». Et donc, c'est sûr que si 80-85% des Québécois vont respecter de façon claire les consignes et les mesures, on va probablement minimiser l'impact de tout ça. C'est sûr que si les gens commencent à essayer de contourner les mesures, à ce moment-là, l'impact risque d'être différent.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss. En résumé, il n'y a pas de solution parfaite, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a une réalité qui est celle de la fin de l'année, qui est le mois de janvier, avec une pression sur le réseau de la santé, puis toujours à garder en tête, même si ça peut paraître évidemment très lointain, mais le processus de l'effet de la vaccination, c'est 10 mois, 12 mois avant qu'on puisse prétendre revenir Et même après ça, il y aura toujours, je pense maintenant, une espèce de nouvelle façon de se comporter, un nouveau code dans nos relations avec les autres. Quand on parle des écoles, on parle aussi beaucoup de pression sur les responsables de services de garde. Là. C'est bien beau fermer les écoles, mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, diront beaucoup de parents, et notamment les parents qui travaillent dans les services essentiels. J'en parle dans quelques minutes, il est 7h41.